Donc je l'ai travaillé, enfin je l'ai travaillé, je vais vous présenter un petit peu ce que je fais sur la notion de rythme. Je cherche mes lunettes, si je les retrouve.
Tu veux les miennes?
Pas que les miennes.
Merci. Et donc je vais vous présenter le travail que je fais sur le rythme, sachant que c'est pas le rythme au sens où on l'entend habituellement, donc c'est pas du rythme moderne dont il s'agit, mais d'un autre rythme, donc en l'occurrence d'un rythme qui concerne le langage, et que j'ai appelé ici le rythme entre les mots, puisque c'est un rythme qui concerne le langage, mais qui n'appartient pas tout à fait à la langue. Donc ce que je vous ai mis là, c'est une phrase que j'avais en exergue, et qui vous donne un petit peu la perspective du rythme tel que je travaille avec. Donc le rythme dans ce cadre-là, donc quand il s'agit de, et ce qui montre le mieux que le langage n'est pas fait de mots, mais de ce qu'on sait mettre entre les mots qui les tient ensemble, c'est ce qu'on appelle la littérature et la poésie. Donc là, ce dont il s'agit, c'est de voir ce qui se passe dans le langage, pas avec les mots, mais entre les mots. C'est-à-dire comment s'opère en quelque sorte l'activité de la pensée, l'activité de langage, non pas sur le plan linguistique, mais sur le plan du continu entre la langue et le corps. Donc dans les mots, il n'y a que du sens, effectivement, comme dans les définitions. Et nous, ce qu'on va essayer de voir ici, enfin ce que je vais essayer de vous présenter en partie, c'est ce qui se passe entre les mots. Alors je ne sais pas quelle approche vous avez du rythme habituellement, si c'est un rythme plutôt musical, un rythme... je ne sais pas, quelqu'un a... un parti pris concernant le rythme ou une expérience particulière du rythme? Non. En matière de rythme musical, en matière de biorythme ou de rythme médicaux ou... On continue alors. Donc, le rythme tel qu'on va essayer de le voir, c'est la manière dont il s'inscrit dans le langage et dont on ne le voit pas actuellement à cause des habitudes qu'on a prises, notamment à cause de la musique. Alors, on va commencer par... alors ça c'est le plan que j'ai donc du travail actuellement que je fais sur le rythme. Alors comme vous pouvez le voir, un des problèmes du rythme que je pose, c'est le problème de sa phénoménologie, à savoir le problème en question, c'est qu'on a pris l'habitude d'aborder le rythme en termes de son, donc au niveau de la sphère ORL, mais le rythme n'a pas été toujours... ne s'est pas exprimé toujours de cette façon-là, et c'est pour ça que dans la deuxième partie j'ai abordé le rapport qu'il y a entre le rythme et ce qu'on appelle le rhythmos chez les Grecs, donc pour différencier deux utilisations du rythme, enfin deux sphères intellectuelles du rythme même, et deux historicités particulières, à savoir celle du rythme dont nous on a l'habitude, qu'on voit comme l'expression de schéma répétitif par exemple, comme des formes qui sont itératives par exemple dans la musique, ou encore des structures, des périodes, des ordres également. Donc ça c'est pour le rythme moderne, tandis qu'avec le rhythmos grec, on a affaire à autre chose qui correspond le plus souvent à ce que Platon appelait la forme du mouvement, enfin l'ordre du mouvement. Mais bon, et on verra après comment que ça se discute. Ensuite, Archiloque est ici le premier à employer, enfin le premier, c'est évidemment relatif puisque Archiloque a vécu de la fin du 8e siècle au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est dans un de ses textes qu'on a trouvé la première occurrence du terme rousmos. Mais pour autant, on ne sait pas, compte tenu de ce qu'est l'état du savoir concernant la poésie à cette époque et l'univers présocratique, on ne sait pas s'il n'y avait pas d'autres occurrences ailleurs ou non, et si celle-là fait véritablement école. Donc Archiloque, lui, n'était pas philosophe, c'était un poète, et il est considéré comme étant peut-être le premier poète européen dont on ait des écrits. Alors, on verra qu'autour d'Archiloque s'est cristallisée une polémique qui, elle, est moderne, à savoir est-ce que le rythme exprime la fixité ou le mouvement. Ensuite, se pose la question avec Héraclite et sa philosophie du mouvement, de l'écoulement, la question de l'origine de rousmos. C'est-à-dire que rousmos, en fait, aurait pour comme radical le rei, qu'on voit là à pantarei, donc qui veut dire tout cool. Et donc on aurait dans rousmos le radical de couler, et avec un suffixe qui est beau, c'est qui exprime en fait l'abstraction. Donc on aurait avec le terme de rousmos au départ l'inscription du mouvement même qui est exprimé par Rey. Donc ça c'est pour fixer et pour poser la polémique qui existe encore aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas du tout réglée, à savoir est-ce que le rythme est une question de son ou non, est-ce que le rythme est une question de continuité ou de discontinuité, c'est pas réglé non plus, c'est peut-être pas réglé d'ailleurs. Et est-ce que ça exprime le mouvement ou le lien, le maintien, enfin le... De ce point de vue-là, il y a différents avis, c'est-à-dire des avis qui sont plutôt consensuels et qui disent bah non, nécessairement, le monde fonctionne avec la permanence et le changement, le continu et le discontinu. Donc nécessairement, le rythme, et on le voit en musique, comme c'est une notion qui se déroule dans le temps, implique aussi des structures reconnaissables et un mouvement qui... permet de donner du mouvement à ces structures et qui, ces structures s'articulant, prennent une forme. Donc ça c'est pour le point de vue consensuel et qu'on trouve chez, par exemple, un philosophe qui s'appelle Pierre Sauvanet, qui est aussi un musicologue, donc c'est assez intéressant d'avoir son point de vue, d'autant qu'il a fait un gros travail là-dessus, qui existe en deux volumes aux éditions Kimé, qui s'appelle Le rythme et la raison. Donc un premier volume qui s'appelle Rythmologique et un second volume qui s'appelle Rythme analyse. Donc où il fait à peu près le tour du... pas le tour... en tout cas, il chemine avec le rythme suffisamment longtemps pour embrasser les polémiques modernes sur le rythme, une description du rythme à différents niveaux, donc musical, évidemment, mais aussi pictural. Il aborde un petit peu le cinéma, mais très peu. Le cinéma est pourtant pris aussi dans le rythme. Il y a un très bon bouquin là-dessus qui s'appelle, je ne sais plus, je pourrais vous le donner après en référence, mais qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Guido, et qui est assez complet sur le sujet du rapport entre le rythme et le cinéma. Et il y a finir juste sur Pierre Sauvadet, une conception philosophique du rythme qu'il emprunte à Bachelard et à Bergson, mais bon, qu'on pourra éventuellement aborder plus tard. Mais ce n'est pas celle qui m'intéresse, parce que ce n'est pas non plus de la conception philosophique du rythme avec laquelle je travaille. Même si ça passe et ça repasse sans cesse, parce que dans un premier temps, le rythme, la réflexion sur le rythme, on l'a principalement avec les philosophes qui l'abordent comme phénomène. Alors, ensuite, j'ai abordé la platonisation du rythme, ou comment le rythme vient à la répétition. Et ce que je veux présenter dans la manière dont Platon nous amène le rythme moderne, c'est la rupture qu'il constitue entre le rythme moderne et le cousmos ancien. Enfin, ancien ou en tout cas antérieur à Platon. Donc la rupture, pour la bonne raison que l'expression du cousmos comme flux au départ, puisque il a pu prendre cette valeur là sous l'inspiration d'Héraclite. Donc cette inscription va se modifier avec Platon, parce que Platon va évidemment avoir quelques difficultés avec ce qu'il appelle la philosophie mobiliste des présocratiques, donc d'Héraclite, des suivants jusqu'à Démocrite, donc qui est un contemporain de Platon. Et il va mettre de l'ordre en quelque sorte dans le rythme, c'est-à-dire qu'il va faire une opération de rationalisation, pas seulement du rythme, mais de la philosophie mobiliste dans son ensemble. Donc il va aboutir à renverser le principe qu'il y a entre la forme et le mouvement, et en faire l'ordre du mouvement, à savoir la pensée du mouvement du point de vue de l'ordre, de l'ordonnancement. Le rythme de Démocrite donc suit de manière, peut-être un peu anachronique, celui de Platon. Comme je disais, ils étaient contemporains, et Démocrite était simplement plus vieux que Platon à son époque. D'ailleurs, il a vécu jusqu'à 103 ans, ce qui était pas mal à l'époque. Et donc il y avait un vieux conte. Je ne sais pas si... Désolé. Donc il y avait un contentieux entre Démocrite et Platon, qui fait que Platon a complètement ignoré la philosophie de Démocrite et qui lui en voulait à un point qu'il aurait, d'après les sources ultérieures, un type qui s'appelle Aristoxène de Tarente, il aurait voulu brûler tous les livres de Démocrite pour... il aurait voulu racheter tous les livres de Démocrite pour ensuite les brûler de manière à éjecter Démocrite de l'histoire et de la circulation. Il en a été dissuadé par deux pythagoriciens qui traînaient avec lui et qui lui ont dit « Non, c'est pas la peine, on les a déjà tous. » T'aurais peut-être pas assez d'argent pour le faire, donc retiens-toi. Mais ce qui en ressort de cette histoire, c'est que entre Platon et Démocrite, on a affaire à deux types de philosophie qui n'ont rien à voir, sachant que l'une, celle de Démocrite, s'inspire de la philosophie des mobilistes ou des flumens, ou des fluentes, philosophie issue d'Héraclite, alors que Platon, s'inspire directement de Pythagore. Et c'est d'ailleurs chez Pythagore qu'il va aller chercher la référence au nombre et à l'arithmétique, donc à l'arithmos, pour constituer son ordre du mouvement. Et donc à la fin, je voudrais terminer par ce que j'ai appelé le corps du rythme, qui pose les problèmes du rythme par rapport au corps. Et c'est là... je dirais une difficulté avec laquelle je ne sais pas particulièrement... je n'ai pas de solution particulière. Ce que je vais vous proposer dans cette dernière partie, c'est la manière dont tout cet ensemble s'articule et dont il fait sens pour constituer avec le rythme une théorie du langage et du corps. C'est-à-dire une théorie qui ne sépare pas le langage et le corps, comme on en a l'habitude, ou qui n'interprète pas en tout cas le corps du point de vue de la manière dont il fait des signes, par exemple, mais une théorie où le corps est dans le langage, où le corps se construit aussi dans le langage, à travers, par exemple, les émotions, les affects, mais aussi à travers d'autres types d'activités. Pour celles qui m'intéressent plus particulièrement, ça va être la poésie, par exemple, et la peinture, ou les œuvres d'art plus généralement, dans le sens où il y a quelque chose du corps qui passe dans l'activité artistique. Qui passe dans le langage, et d'autre manière, puisque le corps en fait ne s'inscrit pas dans le langage de la même façon que le langage s'inscrit dans le corps, voir comment on invente notre propre corps et le corps, je dirais, dans sa représentation générale, dans le langage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il porte d'inconscient. Comment il se produit, comment le rythme peut éventuellement constituer une physicalité, une corporéité particulière au langage. Donc voilà l'ensemble sur lequel je voudrais travailler. Alors je vous demandais votre... si vous aviez un point de vue, a priori, sur le rythme, savoir s'il y avait des musiciens parmi vous, par exemple, ou des architectes, ou je ne sais pas, ça peut être... Mais... Donc, je reprends au début, avant de rentrer dans quelque chose de plus détaillé, c'est la difficulté, en fait, qu'il y a eu jusqu'ici à construire une théorie du rythme, une théorie d'ensemble basée sur le rythme. La philosophie a généralement botté en touche et fait du rythme quelque chose, un phénomène marginal. Je dirais que socialement, le rythme est mis un petit peu à l'écart des choses de la société sérieuse, c'est-à-dire à l'écart du politique, à l'écart de l'éthique. Ce en quoi, pourtant, il est très concerné. Et donc, le rythme est complètement, enfin, nous apparaît aujourd'hui de manière complètement brouillée. C'est-à-dire que si le rythme, d'une certaine manière, c'est l'homme, comme le disent certains, enfin, comme l'ont pu dire, comme l'a pu dire Marcel Mauss, donc un sociologue, le rythme, c'est l'homme. Le rythme, c'est une expression particulière du sujet dans le rapport au monde, parce que le rythme, c'est une organisation du corps ou d'un corps ou d'une forme dans le temps. Dans ce cas-là, pourquoi le rythme est brouillé par les histoires de mesure, de métrique? Est-ce qu'il n'y a pas là, par exemple, des enjeux de stratégie, pas seulement discursive ou théorique, mais politique? Est-ce que, au fond, brouiller le rythme quand il s'agit d'une forme en mouvement qu'on peut assimiler à l'activité humaine, individuelle ou collective, brouiller le rythme par la mesure, dans ce cas-là, politiquement, est-ce que c'est pas réduire l'homme à la cadence, à la métrique, et à ce que j'appelle aussi la métrique sociale, donc les célébrations, la manière dont la société est organisée en période, que ce soit les périodes du calendrier, les périodes rituelles de telle ou telle société. Qu'est-ce qui fait que la cadence, finalement, passe pour du rythme? Qu'est-ce qui fait que la vitesse, ou l'apologie même de la vitesse, passe pour du rythme? Et finalement, qu'est-ce qui fait que le rythme tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'exprime par exemple dans la musique, a ceci de contradictoire qui nous libérerait d'une certaine manière, mais qui nous tient complètement, je dirais, prisonniers de ce mouvement général qui organise les cadences sociales. Donc, le rythme, comme je le pose ici, n'est pas phénoménologique. Il n'est pas rythmique au sens où ce ne sont pas des périodes, comme les périodes jour-nuit qui constituent un mouvement rythmique au sens propre du terme. Le rythme n'a jamais signifié, au fond, enfin, en tout cas, dans son origine pré-platonicienne, une référence au cosmos. Il n'y a jamais eu de rythme d'alternance dans le cosmos, de rythme comme battement dans le cosmos. Ça n'existe pas chez les Grecs. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on a de l'imagination ou de l'imaginaire du rythme qui aurait une valeur cosmologique est du fantasme purement issu de l'organisation platonicienne. Il ne faut pas oublier que le cosmos, par exemple, c'est l'ordre. Vous avez peut-être déjà des questions, des remarques, je sais pas.
Je sais pas, déjà chez Pitagore, cette organisation, c'est comme c'est, Canossé. Moi je connais lui qui du rapport harmonique, finalement, je suppose, mais il n'y introduit pas une notion de régularité.
Alors, si, elle est déjà chez Pitagore à travers la notion de proportionnalité, notamment.
D'accord.
Et de proportionnalité entre les planètes. Et l'intervalle qu'il y a entre les planètes. Donc il identifie à son époque, donne le rythme du cosmos et donne aussi le modèle au rythme musical qu'il construit là-dessus. Alors je voulais juste... Oui ? Ah, c'est le rythmique.
Les cellules rythmiques qui vont se succéder dans le temps et l'organiser. Donc c'est plutôt une vision platonicienne.
Ça, c'est une vision platonicienne, puisque elle.
On ne parlait pas de rythme, mais.
Enfin, il s'agit avant... d'un pattern, ou d'une structure en tout cas, parce que ce que tu appelles cellule, qui prend une valeur différentielle dans le temps. Mais donc ça effectivement ça vient de Platon. Mais les choses, pour l'instant telles que je les présente, elles peuvent paraître assez schématiques. Parce que
c'est pas du tout une division du temps au départ.
Au départ, c'est pas une division du temps. En tout cas pour Héraclite, ce n'est pas une division du temps. La division du temps, notamment en mesure, commence à prendre effet à la vérité avant Platon, puisque socialement, il y a déjà le rôle, un rôle important de la musique dans la manière dont le rythme est théorisé. Mais cette théorisation, se fait, je dirais, suivant d'autres références, et notamment au sens où la musique est indissociable, par exemple, de la poésie et d'une certaine et de la danse également. L'ascension arrive et est véritablement théorisée. Je dirais à partir de Platon, où il pose vraiment le rôle de la voix, de l'activité de la voix dans l'organisation rythmique, comme quelque chose qui participe de la construction du rythme. Mais la musique telle qu'on l'entend, ou telle qu'on la conçoit aujourd'hui, chez Platon, n'a aucun sens. C'est-à-dire que pour Platon, une musique organisée sans parole, sans scansion et sans corps, parce que pour certains musiciens, poètes, danseurs, il fallait aussi danser les poèmes. Donc on se retrouve dans une conception du rythme qui implique le corps dans son ensemble.
Donc,
alors au départ, sur le plan de la métrique, la poésie se calque sur la musique, la théorie métricienne, ouais. Et notamment chez Platon. Les maîtres métriques sont des parties du rythme. Ce qui serait quoi Aristote n'est pas d'accord, puisque lui dit, On ne peut pas envisager l'organisation du rythme de cette façon-là. Nécessairement, ce sont les maîtres qui sont des parties du rythme et non l'inverse. Donc il y a eu ce renversement qui se fait à ce moment-là. Mais au fond, ça s'est complètement estompé dans le temps, dans la mesure où je dirais que la tradition est allée au plus facile, qui était celle de la confusion et du plaisir, d'avoir aussi ce continu entre poésie et musique. Et ça allait à tel point que pendant une assez longue période au Moyen-Âge, le terme de rythme est dévoyé pour signifier la rime. Et on retrouve même dans l'écriture de la rime le H historique, donc celui de Rey, donc de Rousse, du radical, pour écrire rime, donc rime qui s'écrivait R-H-I-M-E. Et cette confusion entre rime et rythme organisant une conception du langage empruntant à la musique, et pour de bonnes raisons, c'est que jusqu'au Moyen-Âge, d'ailleurs, je sais encore aujourd'hui parfois, mais à l'époque de Platon en particulier, et même de Pythagore, la musique est le mode, je dirais, de l'expression de l'âme humaine. C'est dans la musique que s'exprime l'informe du sujet, pour le coup. Et du coup, comme le langage a une valeur à cette époque qui est plutôt hésitante, mais entre la nature, enfin, parce que le langage c'est la nature ou la convention. Enfin, c'est tel que Platon le pose, tu vois, dans le discours qui s'appelle le Cratyle, entre Cratyle et Hermogène. Donc, est-ce que c'est est-ce que le langage est convention ou est-ce qu'il est par nature, ou finalement, je ne me souviens plus si, enfin, de quelle manière il tranche, mais il me semble qu'il tranche plutôt pour la convention quand même. Et surtout, bon, bah, le langage a chez Platon aussi un statut parfois méfiant. Dont Platon se défie, notamment il défie beaucoup de l'écrit, des gens qui écrivent de la théorie. Ça, c'est dangereux. Donc le langage arrive, je dirais, par-dessus la musique. Et pour le coup, il s'est métrifié avec la métrification et l'arithmétisation de la musique.
Je crois que c'était plus tard, parce que j'ai découvert dans un livre que c'est exactement les mêmes termes employés pour le théâtre grec ancien et la poésie ancienne. C'était les mêmes termes exactement en musique. Du coup, j'avais pensé que c'était la musique qui s'était calquée sur
Alors, au départ, mais au départ, ça se distingue pas vraiment. En fait, c'est pas l'un qui se calque sur l'autre. Et d'ailleurs, si on va même à l'origine de la notion de rythme, elle vient de la poésie et pas de la musique. Enfin, elle viendrait en tout cas de la musique et pas de la poésie. Mais les deux, voire les trois, fonctionnent ensemble. Enfin, les trois avec la danse, et les termes pour qualifier la musique à l'époque qualifient aussi le langage, en tout cas le langage politique.
C'est plastique. Parce que du coup, on retrouve un sujet plastique, parce qu'on retrouve les termes de rhétorique et aussi, en tout cas, de contribution à une espèce de vocabulaire de l'espace. J'ai une question parce que dans la typologie de la peinture, enfin, en tout cas la typologie d'excellence, les critères d'excellence de la peinture grecque, qui sont donc Crilea, Symmetria, Mouyazis et Rhythmus. J'ai, moi, dans le bouquin, Rhythmus, c'est-à-dire avec une graphie en R, Y et H, M, O, S. Est-ce que c'est un autre mot que Rousmos, ou est-ce que c'est une erreur de graphie? Est-ce que c'est un choix de traduction des arbitres, ou est-ce que c'est bien du même mot dont il est question?
C'est du même mot dont il est question. Et en fait, voilà, l'écriture qu'on trouve le plus régulièrement, parce que, et encore, c'est une écriture, je dirais presque idéologique, parce que si on écrit Rousmos de cette manière, ça veut dire que on accorde du crédit au fait que le rythme prendrait sa valeur signifiante dans le radical rei. Donc, ça constitue, sur le plan de la tradition de la pensée, un lien entre la notion de rythme et la philosophie du mouvement donc chez Héraclite.
D'accord, tu veux dire que le choix de la graphie dans mes propres manuels de peinture, par exemple, est un choix platonicien, en fait. C'est déjà un choix moral d'avoir choisi Rhythmus plutôt que Cosmos chez les théoriciens de la peinture.
Après, concernant Rhythmus, c'est plus tardif que Cosmos.
Comme graphie.
Comme graphie, ouais. Et parmi les traducteurs de Cosmos, évidemment, certains, comme la tradition plutôt heideggerienne, n'écrivent pas Rousmos avec le premier H. Hein.
Le premier H, c'est ce qu'on trouve dans Rhétorique, par exemple. C'est un rapport rayé.
Non, je pense pas. Non, non, non. Je vérifierai, mais je ne l'ai pas rencontré sous cet angle-là.
Excuse-moi, mais
je ne sais plus où j'en étais non plus. Mais parce que la question, elle se pose. Enfin, de toute façon, on pourra y revenir plus précisément. Ce que je voulais juste montrer à travers cette présentation et à travers d'autres témoignages, c'est la difficulté, en fait, à donner au rythme une consistance effective. Donc là, par exemple, du texte de Pierre Sauvanet, j'ai 100 définitions du rythme. Donc en matière de dictionnaire, ça montre qu'il y a